Bonjour à tous, bienvenue à Panorama économique, dont voici les grandes articulations. Les prix des produits pétroliers encore revus à la hausse cette semaine. Les usagers rajoutent depuis lundi 30 francs congolais supplémentaires au prix habituel pour les litres d'essence, de mazout et du pétrole. La République démocratique du Congo en est où avec la connexion à la fibre optique? Cette question était au centre des discussions mercredi lors de l'exposition Computa organisée par B2B à Kinshasa. Et au même moment, se tenait l'Assemblée générale de la délégation syndicale de la Société congolaise des postes et télécommunications. Le syndicat veut manifester contre ce qu'il appelle mafia autour de la gestion de ce projet. Vente à la criée des cartes prépayées et des cartes SIM, c'est une nouvelle activité génératrice de revenus à laquelle se livre de plus en plus le jeune de Lubumbashi dans la province du Katanga. C'est le reportage de la semaine à suivre avec Paulin Munanga de votre magazine. Panorama économique reçoit cette semaine bienvenue Marisa Koumanya, il est journaliste au desk économie du journal Le Potentiel et de la télévision Télé 7 ici à Kinshasa. Et c'est avec lui que nous allons commenter l'actualité économique de la semaine. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Et devant ce micro, Daniel Tambinzoni, Jocelyne Nyanga, pour vous présenter votre magazine rétrospectif de l'actualité économique de la semaine. Jocelyne, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Nouvelle hausse des prix du carburant à la pompe sur toute l'étendue de la RDC. Les tableaux tarifaires des stations-service ont affiché plus 30 francs congolais lundi à Kinshasa.
L'essence est passée de 1190 à 1220 francs le litre, 1210 francs pour le mazout. Les milieux pétroliers expliquent cette hausse par deux raisons au moins. D'abord, l'actuel coût du pétrole à l'importation qui a augmenté d'environ 2 dollars le baril, mais aussi l'application des montants que le gouvernement devra soutirer désormais sur chaque litre vendu. Un montant qui doit servir à payer le manque à gagner des opérateurs pétroliers en RDC. Un extrait de l'interview avec Emery Mbaki Bopé, qui était invité des échos d'économie mardi.
Depuis la CETI qui est en vigueur du 27 mars, nous avons évolué avec le même prix. Pendant que le paramètre qui entre en ligne de compte ont varié. Ces paramètres, le PMF par exemple, les prix d'acquisition du produit pétrolier, donc du baril et du PMF à l'importation, les prix ont augmenté. Et le taux de change aussi a affiché quand même un certain comportement.
C'est une hausse de 30 francs congolais sur le litre à la pompe, mais vous suivez, hein, selon votre association, en tout cas, on devait dépasser ce prix qui est appliqué aujourd'hui pour l'essence, par exemple, à Kinshasa, c'est 1220. Selon vous, on devait normalement dépasser. Mais qu'est-ce qui a été fait pour qu'on dépasse ce seuil?
Mais écoute, on ne peut plus aller dans la subvention parce que c'est là où beaucoup de gens veulent en venir. Mais nous avons dans la structure une innovation, c'est-à-dire que depuis un certain temps qu'on avait inséré la ligne stock de sécurité qui permet de constituer le moyen ou le matelas et qui, au fait, intervient de temps en temps pour attirer ou pour éponger le manque à gagner. Dans le frais que l'on paye, il y a une quantité qui rentre directement dans le stock de sécurité et c'est ce moyen-là disponibilisé qui permet justement de faire face à la période de gel.
Mais est-ce qu'il y aurait des conséquences de hausse de prix sur le transport en commun?
Moi, je ne pense pas. Je pense pas parce qu'on tient compte du pourcentage de la variation. Mais quand vous calculez de 1195 à 1220, la variation ne dépasse pas 5%.
La variation ne dépasse pas 5%, donc le transport, le prix du transport ne donne normalement pas à changer. Mais on se souvient que ce n'est pas une première variation de moins de 5%. Donc on peut se retrouver avec plus de 10 changements de prix de moins de 5%. Et les transporteurs, eux, vont toujours appliquer le même prix. S'ils ne sont pas en train de se faire rouler, est-ce qu'on ne le fait pas intelligemment par rapport à une certaine date, on a déjà atteint, c'est pas dépassé les 5%.
Bon, écoutez, madame, je comprends votre préoccupation, mais je vais ici apaiser tout le monde. Nous avons gardé le prix inchangé pendant une longue période. Nous aussi, nous faisons des sacrifices. Le législateur a mis en place un mécanisme de contrôle et de régulation pour dire on ne peut augmenter que si le mouvement est effectué dans un seuil minimum ou maximum, selon les cas, de 5%.
Emery Mbati Boupé était l'invité de l'Écho d'économie de lundi, c'était un extrait, et retour sur, dans ce studio. Avec vous, bienvenue Marie Bakoumania, on en dira assez une nouvelle hausse du prix du carburant.
C'était plus visible le comportement du franc congolais sur le marché. Le taux de change qui est en train de bouger dans le sens de la hausse ne pouvait que amener à la révision à la hausse du prix du carburant. Et il faut dire également que la prise en charge de la fiscalité, le gouvernement a tendance maintenant à ne plus prendre en charge la fiscalité pétrolière. La répercussion sur le prix à la pompe n'était que normale. Et conjugué également le troisième facteur, le prix moyen frontière et le prix à l'importation ne pouvaient que influer sur la succession du prix du carburant à la pompe.
Comment vous avez accueilli cette nouvelle hausse c'est un produit stratégique. Quelles pourraient être les conséquences, les corollaires de cette hausse?
Mais, contrairement à ce que M. Bopé a dit, le prix du transport en commun ou le prix du transport tout court devrait subir également une courbe dans le sens de la hausse, parce que simplement lorsque quelqu'un active son prix de revient, il avait un certain seuil, et lorsque ça augmente, nécessairement il y a des implications. Et là, c'est tout à fait normal qu'il y ait des implications, et sur le plan social, la population va en ressentir, parce que les consommateurs, puisque ce sont les voyageurs qui vont de leur lieu de résidence à leur lieu de travail, la marchandise qui quitte le coin de production jusqu'au coin de consommation, absolument, il y aura des incidences, parce que les chiffres, ils sont têtus. Hein.
Oui.
On ne peut pas vouloir d'un côté augmenter et de l'autre côté comprimer, ça aura des conséquences nécessairement.
Quand on pense sur chaque litre, multiplié par 10, multiplié par 100, ça fait déjà beaucoup.
C'est une incidence absolue.
Certainement. Oui. Et c'est le moment de prendre notre deuxième dossier de la semaine. Une société du nom Congo Cable CV en gestation pour gérer le projet de la fibre optique en République démocratique du Congo, en lieu et place de la société congolaise des postes et télécommunications, l'ex-OCPT.
Pour le syndicat des travailleurs de la poste, cette nouvelle partie comme une rumeur prend de plus en plus forme au regard des réunions et correspondances des ministères de PTT et du portefeuille. Et pour tirer les choses au clair, le syndicat a organisé hier une assemblée générale au cours de laquelle un mémorandum à remettre au Premier ministre a été rédigé. Van Gambela, président de la délégation syndicale de la SCPT, est au micro de la radio Okapi.
D'abord, c'était des rumeurs.
Oui.
Alors, nous avons écrit au Premier ministre comme objet tentative de la confiscation de la gestion de la fibre optique.
Par qui?
Bon, non. Alors, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de... On savait que c'était un membre du gouvernement, mais on n'était pas sûr.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui, les voiles sont tombées. Nous avons des correspondances avec la signature du ministre de portefeuille. Donc là, en tout cas, les deux sont jetés.
La correspondance du ministère de portefeuille disait quoi?
C'était une invitation. Elle a invité Vodacom, Tigo, Airtel, Standard, Telecom et puis Nicocom. Là, vous avez comme objet, ils voulaient créer une autre entreprise qui doit gérer la fibre optique. Nous avons dénoncé cela.
Est-ce que vous pensez vraiment que c'était une réunion pour créer une autre structure pour gérer la fibre optique ou c'était une réunion pour les associer seulement à la gestion de la fibre à côté de la SCPT?
Non, c'est ce qu'on dit, création d'une autre entité, mais on a trouvé le nom de l'entreprise, Congo Cable.
Pour gérer la SCPT à la fibre optique.
Pour gérer les revenus de la fibre optique.
Réplique de l'ADG, la SCPT est la seule structure nationale qui va gérer la fibre optique en RDC. Il n'y a pas de masse autour de ce projet, a rétorqué M. Jean-Pierre Mouongo à notre micro.
Bon, la SCPT a un mandat de l'État. Jusqu'à présent, la fibre optique ne date pas d'aujourd'hui. C'est un travail que nous faisons depuis plus de 2 ans et demi.
Donc c'est jusqu'à nouvel ordre, c'est la SCPT qui en a la gestion et qui en a la propriété. Je ne suis pas au courant, moi, il y a quelqu'un d'autre, donc je ne peux pas vous répondre à cette question, je ne sais pas.
Une réunion se serait tenue dans un des ministères où les sociétés de la télécommunication en place en RDC avaient été associées, mais pas la SCPT.
Je ne sais pas, le ministère est responsable du secteur, donc il peut convoquer ou préparer des réunions avec les gens du secteur quand il le décide. Mais de la réunion dont vous parlez, je ne suis pas au courant, parce que vous dites vous-même, je ne suis pas au courant, on n'a pas été associé à ces réunions-là.
Monsieur Ladouzé, qui va se charger de la distribution de la fibre optique à ses utilisateurs?
La SCPT, c'est sa mission de le faire, sauf avis contraire du gouvernement.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il y a une mafia qui s'organise autour de la gestion de la fibre optique en RDC?
En tout cas, je n'ai pas encore constaté qu'il y a une mafia à l'intérieur de la SCPT qui continue à travailler normalement sur cette question. Donc, ceux qui disent qu'il y a une mafia, ça n'engage que...
Ceux qui disent qu'il y a une mafia autour de la gestion de la fibre optique en RDC disent des choses qui n'engagent que eux. C'est ce que dit l'administrateur délégué de la SCPT. Bienvenue, vous avez également suivi ce dossier de la fibre optique comme nous. Et ceux qui ont suivi Écho d'économie de jeudi, nous avons contacté le bureau du ministre du portefeuille, mais malheureusement, le bureau nous dit, comme son chef, le vice-premier ministre en charge de PTT n'était pas au pays, il n'était pas bon que madame puisse parler en son absence, tout cela pour garder l'harmonie au sein des membres du gouvernement. Vous avez suivi ce dossier, la fibre optique en RDC, c'est depuis le mois de février, si je ne m'abuse, que le câble est arrivé à Mwanda, mais juste là, on ne sait pas. Où on en est?
Oui, comme par bonheur ou comme par malheur, par bonheur professionnel comme par malheur d'être congolais, je suis le dossier de la fibre optique au niveau de ma vie professionnelle au quotidien, et ce dossier, ça sent déjà la mafia. Moi, je peux l'affirmer, contrairement à l'ADG de la SPTC, lui, il est sous le genre du gouvernement, il est soumis à un devoir de réserve. Moi, je ne suis pas soumis à ce devoir en tant que Congolais, j'ai le devoir de dire la vérité. Il y a effectivement une mafia qui est en train de se mettre en place. Et la délégation syndicale, déjà, le 14 mars, avait saisi le Premier ministre. Le Premier ministre Adolphe Mouzoutou avait été saisi par la délégation syndicale des manœuvres de confiscation de la gestion de la fibre optique par une correspondance. Toutes les institutions de la République sont saisies, même le chef de cabinet du chef de l'État est saisi. Et on peut s'étonner que l'ADG de la SCPT ne soit pas étonné que la ministre du portefeuille convoque en date, si je ne me trompe pas, du 9 juin 2011, les sociétés Airtel, Vodacom, Tigo, Standard Telecom,
il y a des choses que vous avez dit.
Oui, et puis réserve des copies à tout le monde, sauf à la SPTC, pour la gestion de la fibre optique. Qu'on ne prenne pas des Congolais pour des idiots. On sait comprendre les choses, comment ça se passe. Quand on nous dit que l'ADG prétend que c'est lui qui aura la chaîne de distribuer la chaîne de la distribution de la fibre optique, et qu'on tient une réunion avec comme objet de cette fibre optique, qu'ils ne soient pas informés, qu'ils ne soient même pas invités, mais il n'y a que des gens qui ne veulent pas, qui refusent de voir la réalité en face, qui doivent se dire que tout se passe normalement. Ce n'est pas normal.
C'est une histoire de gros sous, cette histoire de la fibre optique.
Oui, sinon, les prévisions même de la SCPT, de l'OCPT, parce que la SCPT,
la société congolaise des postes de télécommunications.
Oui, les nouveaux cibles. Sinon, les espoirs de la SCPT que nous avons contactés, le premier segment seulement de la mise en marche de la fibre optique urbaine de Kinshasa, ça apporterait 20 millions de dollars par mois. Quelle est cette entreprise publique de l'État actuellement qui rapporte 20 millions de dollars? Elles sont rares. Et avec 20 millions de dollars mensuels, le CPT renaît de ses cendres. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait retirer à le CPT la gestion de la fibre optique pour créer cette nouvelle société convocable? C'est le plus normal. Il y a eu une réunion effectivement qui s'est tenue au ministère des Postes et Téléphones et Télécommunications où tout le monde s'était retrouvé et investigation de journalistes, on a interrogé des gens. Il y a même quelqu'un au cours de cette réunion qui a posé la question de pourquoi on créerait une autre société alors que on
Est-ce que ce lieu existe? Et là, même les personnes qui étaient invitées n'y comprenaient absolument rien. C'est une affaire de gros sous. On veut créer une société avec des cousins et éventuellement des cousins individuels qui auraient des parts dans cette société. Et là, comme Congolais, on ne peut pas l'accepter. Non pas seulement comme journaliste, mais comme Congolais, on ne peut pas l'accepter qu'il y ait des Congolais qui, la fibre optique, ça va avantager tout le monde. En Europe, par exemple, les universités ont accès à l'Internet gratuitement parce qu'il y a la fibre optique. Pourquoi est-ce que nous, ici, nos universités ne pourraient pas avoir accès gratuitement à l'Internet parce que certaines personnes voudraient, pour leurs intérêts égoïstes, avoir la gestion de la fibre optique? C'est une question qui devrait révolter. Moi, je me dis, même la DG de la SCPT devrait se révolter. Devrait plutôt dire qu'on ne devrait pas agir de la sorte. Et le gouvernement qui a cette responsabilité de mettre en place la fibre optique doit laisser la SCPT remettre de ses cendres grâce à la fibre optique. Et d'ailleurs, là, je ne livre pas de secret de Dieu. C'est que dans mes investigations, j'ai découvert qu'il y avait une banque commerciale de la place qui a accepté de financer les travaux de construction de la station d'atterrage à Mwanda à hauteur de plus de 12 millions de dollars.
C'est beaucoup plus. C'est justement cette enveloppe que l'ADG recherchait. Il cherchait au moins 12 millions pour finir pour commencer les travaux de construction.
Alors, est-ce que vraiment, c'est quand la SCPT, l'être au CPT, trouve les 12 millions pour construire la station d'atterrage, on doit se tourner vers le privé? Il n'y a plus de raison. Et même là, le gouvernement a donné toutes les garanties. Le ministère des Finances, la Banque Centrale a été instruite de garantir ce prêt. Est-ce que c'est le moment d'avoir encore des pirouettes de cette manière, de ce genre, de ce type-là, pour qu'on puisse prendre à la SCPT la gestion de la fibre optique? Je crois qu'il est temps de se lever. Et heureusement, le chef de l'État, à ce que j'ai appris, suit ce dossier de très près, et je suis sûr que toutes ces manœuvres ne sont que des manœuvres dilatoires.
Voilà. Peut-être un petit mot rapidement avant de terminer. Au courant de la semaine, votre journal a publié un article justement sur la fibre optique, disant que le Congo d'en face et le Congo Brazzaville, le travail est déjà fini et la fibre est remise au gouvernement qui peut déjà en faire usage.
Oui, absolument, la fibre est déjà remise. Et même ici chez nous, selon les enquêtes que moi j'ai menées, il apparaît clairement qu'on peut mettre en service la fibre optique dans la ville de Kinshasa le 30 juin. Ce serait même un cadeau pour l'anniversaire du PL 51, l'anniversaire du PL. Ce serait un cadeau pour la population que le chef de l'État mette en marche un service de la fibre optique. Ce serait vraiment un cadeau. Contrairement à ce que j'apprends, qu'on irait juste vers la fin de l'année, ce sont des manœuvres dilatoires pour lesquelles personne de censé, personne de patriote ne peut accepter.
En attendant, le code 243 de la RDC en quelque sorte contourné à des appels internationaux qui activent le 243.
C'est encore une mafia grave. Il y a des gens détenteurs de Simbox qui prennent en charge les appels internationaux et les transforment en appels nationaux. Et là, l'État perd par appel et par minute d'essence. C'est énormément d'argent.
Multiplier
par autant d'appels, ça fait des millions de dollars que le trésor public, qui en a tant besoin, perd journellement. C'est inacceptable. Et même là, la gestion de la fibre optique, si elle échappe à la SPTC, nous allons encore nous retrouver, ça va consacrer cette fraude qui est une fraude massive. Et là, même la complicité, j'active carrément les sociétés de télécommunications privées qui voient ces appels qui passent par leur réseau, qui viennent à l'international, mais qui se sont transformés en national, et des signes bien identifiés qui sont en mouvement à tout moment, ça devait les impliquer, ça devait les piquer et peut-être même les déconnecter et débusquer ainsi ces fraudeurs. Qui ne le font pas. Est-ce que c'est dans leur intérêt de ne pas le faire?
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre les survols de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions du passé sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Le reste de l'actualité de la semaine en plus bref, lundi, nous parlions de la baisse du prix du ciment gris importé qui est observé dans la ville de Matadi, dans le Bas-Congo, il y a quelques temps.
Les sacs de 50 kilos coûtent actuellement entre 11 000 et 11 500 francs congolais, l'équivalent de près de 12,5 $ dans les dépôts. Il y a plus de deux semaines, ce même sac de ciment importé se négociait à 13 000 francs congolais, soit 14 dollars américains, Daniel.
À Goma, la taxe dite taxe sur la reconstruction de la province payée par les opérateurs économiques a été sensiblement réduite.
Et il est passé de 1 à 0,5% de la valeur site des produits importés, soit une réduction de 50%. C'est l'une des retombées de la rencontre lundi entre les vice-gouverneurs et les opérateurs économiques du Nord Kivu. Les opérateurs économiques se disent satisfaits de cette mesure et autres allègements obtenus de la part de l'autorité provinciale.
Mardi, nous recevions une correspondance des clients de la Banque congolaise, agence de Mbujumayi, adressée au gouverneur de la Banque centrale du Congo.
Ils nous demandent de s'impliquer pour leur permettre de récupérer leurs fonds logés dans cette institution en liquidation. Leur SOS est contenu dans une correspondance datée du 9 juin, dont copie nous parvenue mardi, adressée à Jean-Claude Massangou. Ces clients disent observer sans succès toutes les procédures relatives à la décision de liquidation publiée le 7 janvier par les patrons de la BCC.
Jeudi, les nouvelles autorités provinciales du Kasaï occidental ont levé la mesure de suspension qui s'appelle le service d'assurance et d'encadrement du small scale mining, le SESCAM, depuis une année.
Dans sa lettre du 14 juin, le ministre provincial en charge des mines a instruit ce service d'affecter ses agents dans les mini-marchés des négociants, les maisons d'achat des minerais et les sites d'exploitation. Il s'agira, selon Charles Fomba, chef d'antenne provinciale des SESCAM, d'assister et encadrer les exploitants artisanaux. C'est en vue de percevoir les frais en rémunération des services rendus et versés à 100% au trésor public.
Bienvenue sur l'une ou l'autre de cette saisie d'actualité de la semaine, un mois placé.
Oui, la taxe sur la reconstruction de la province, ça c'est quand même une trouvaille.
Et ça te fait rire.
Une trouvaille que je trouve intéressante.
Vraiment.
Mais je crois qu'il faut éviter d'associer les opérateurs économiques. C'est pour le jeu d'or. Plus on les presse, plus on les presse pour qu'ils puissent prendre de l'or. À un moment donné, ils seront plus capables de prendre rien du tout parce qu'ils n'auront plus rien à donner. Il faut savoir plutôt élargir l'assiette fiscale. J'ai toujours insisté sur ce fait-là. Élargir l'assiette fiscale plutôt que d'augmenter la pression sur ceux qui payent encore les taxes dans ce pays. Et une taxe pour la reconstruction de la province, il faut le faire.
C'est justement ce que la FEC a dénoncé derrière moi lors de l'Assemblée élective. Mmh. Ils ont fait un état de lieu de la situation en 2010 et les provinciaux ont créé des taxes en désordre, ce qui n'avait pas rendu facile le travail des opérateurs économiques, voilà. Et puis, au Bas-Congo, le prix du ciment importé a baissé, c'était une bonne histoire aussi pour les amis du Bas-Congo.
Écoutez, Daniel, la solution, ce n'est pas de faire baisser les prix du ciment importé. La solution, c'est plutôt d'avoir des usines de fabrication, de cimenteries ici sur place. Et le Bas-Congo, il y en a au moins deux. Il y a même une troisième cimenterie qui est en gestation dans le Bas-Congo. Donc on ne devrait pas se réjouir que le ciment importé, que le prix ait baissé. On se réjouirait plutôt s'il y avait une solution durable, du genre la construction des cimenteries et que le prix vendu sur place réponde justement aux exigences de la population et notamment également au pouvoir d'achat de la population. C'est ça la grande préoccupation. Et là, les moyens, c'est faisable, mais il suffit seulement d'avoir la volonté. Il y a la Farge qui a toujours frappé aux portes de la RDC. On sait combien on lui fait subir des misères pour des raisons toujours non avouables. Ce sont des choses qu'on devait éviter, là, de se réjouir des conséquences aussi fragiles, aussi ponctuelles et aussi conjoncturelles comme les prix du ciment importé.
Panorama économique, reportage.
C'est une nouvelle activité génératrice de revenus à laquelle se livrent de plus en plus les jeunes de Lubumbashi dans la province du Katanga. C'est la vente à la criée des cartes prépayées et de cartes SIM à travers les rues, les restaurants, les bistrots de Lubumbashi. Pendant que les ambulants qui s'adonnent à cette activité se frottent un peu les mains, les tenanciers de cabines téléphoniques et les shops où se vendent habituellement ces cartes et ces SIM ne sont pas contents. L'éco-reportage de la semaine était réalisé par Paulin Munanga.
Il est midi passé dans un restaurant situé au cœur de la ville de Lubumbashi. C'est l'heure de la pause. La plupart des travailleurs prennent d'assaut cet endroit pour se ravitailler. deuxième vendeur ambulant de cartes prépayées trouve là une occasion de faire leurs affaires. Ils entrent dans les restaurants pour vendre les cartes de recharge de la quasi-totalité des maisons de communication. C'est le business, affirme ce jeune vendeur.
Par jour, si je vends, je vais compter 3 000 ou bien 4 000 francs comme bénéfice. Comment je peux commencer à 11 h pour terminer à 19 h.
Donc, bénéfice à quoi il faut suivre, c'est justement pas 7 000 francs. Comme on le sait bien, à 5 000 francs, on va pas tenir. Vous avez donc, vous êtes à 30 000 francs ou à 3 000. Comme on le sait, c'est 15 000 francs ou à 7 000.
Les avis des clients sur cette activité sont très partagés. Pour les uns, c'est une action louable qui permet de se procurer des unités à chaque moment sans faire beaucoup de gymnastique.
L'avantage, je vois, par exemple, je suis dans un restaurant, au lieu que je puisse me déplacer parce que le temps c'est de l'argent, je essaie un peu de me permettre d'économiser mon temps. Et j'achète et je gagne mon temps et je recharge rapidement. Et c'est bien, c'est un travail que nous apprécions tous.
D'autres, par contre, dénoncent un véritable désordre qui s'est installé et qui prouve à suffisance que n'importe qui peut se lever un bon matin pour faire n'importe quoi dans la ville.
Je trouve ça un peu mal parce que c'est un manque à gagner. Si nous remarquons dans la ville de Lubumbashi, tous les cabines sont vraiment identifiées par la mairie. Et les enfants qui cachent leurs unités dans des poches, qui les vendent dans des restaurants, dans des bars, vous voyez qu'ils ne payent rien à la mairie. Bon, c'est un désordre.
Les tenanciers des cabines de vente de cartes de recharge, eux s'en plaignent. Cette activité de vendeur ambulant de cartes a un impact négatif sur leurs affaires. L'illustration avec cette dame responsable d'une cabine au cœur de la ville de Lubumbashi.
Il y a un problème qui se pose. Avant là, nous avions beaucoup de clients. Pour le moment, il y a une diminution.
Cela n'est pas dû au fait qu'il y a actuellement aussi des jeunes gens qui vendent des unités dans des boîtes, dans des bars, dans des restaurants.
Oui, cela peut être aussi une cause. Parce que quand il faudrait que la personne quitte peut-être les restaurants pour venir manger, qu'il est bloqué par ces jeunes gens, c'est-à-dire qu'il y a toujours diminution.
Signalons en fait que la plupart des jeunes qui exercent cette activité étaient vendeurs à la sauvette de différents produits de luxe dans la ville de Lubumbashi.
Et c'est par là que nous allons terminer le panorama économique de cette semaine, mais avant cela, la vente à la criée, ce n'est pas seulement à Kinshasa, ce n'est pas aujourd'hui, c'est aussi à Lubumbashi dans le Katanga, mais pas n'importe quel produit, les crédits pour la, disons quoi, les cartes pour la communication, et puis les cartes sur le pendant qu'on sait qu'en RDC, il y a une décision des autorités qui demande à tout utilisateur d'un numéro de téléphone de se faire enregistrer. Est-ce que avec cette manière-là de vendre?
Écoutez, Daniel, on a pu déplorer le fait que le pays n'est pas réellement gouverné. On l'a régulièrement déploré. Et là, moi, je ne souhaiterais pas qu'on puisse mettre un terme à cette activité, mais que l'on arrive à
régulariser
cette activité. On devrait ne plus que les identifier. Ils doivent ne plus que payer un petit rien au trésor public. C'est comme ça qu'on peut élargir l'assiette fiscale. L'activité, elle est là. L'État a subi, hein, comme d'habitude d'ailleurs, hein, au lieu de précéder les faits, l'État vient de subir ces faits-là. Maintenant, il est temps de l'encadrer et d'arriver à tirer bénéfice de cette activité qui semble être lucrative. Mais d'autre part, sur le plan sécuritaire, les mesures ont été prises pour les gens qui s'achètent des cartes SIM devraient se faire enregistrer. Mais c'est dans les bars, dans les boîtes de nuit, on se fait enregistrer.
On ne sait pas le faire.
On ne sait pas le faire. Alors, ou bien on est sérieux, ou bien on ne l'est pas. Quand l'État a pris une décision, elle doit être appliquée et l'État lui-même doit se doter de moyens pour faire appliquer ses décisions. Et là, on a l'exemple patent que l'État n'arrive toujours pas à faire appliquer ce qu'il prend comme décision.
Que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi ou dans n'importe quelle autre ville du pays, on ne se juge pas contre les activités comme celle-là, mais on veut qu'elles soient réglementées, qu'elles soient bien encadrées, qu'elles soient bien régularisées pour que eux qui s'adonnent, ceux qui tiennent ces activités se retrouvent et que l'État aussi se retrouve vis-à-vis de ce droit.
Oui, vous savez, Daniel, je crois que le président de la FED a révélé une fois qu'il y aurait 16 milliards de dollars américains en circulation hors circuit bancaire en République démocratique du Congo. C'est énorme. C'est énorme. Comment est-ce que.
Contre 7 milliards de budget
national et contre même le produit intérieur brut qui tournerait autour de 12 milliards de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Et l'État a tout à gagner plutôt que de presser les 20% qui payent encore
d'abord les impôts, l'État a tout à gagner à élargir l'assiette fiscale à ces 80% qui ne payent rien, qui sont dans l'informel, qui sont dans les activités qui rapportent réellement, qui sont des activités qui font vivre des familles. On n'a qu'à voir l'impact visible de ces activités sur la vie des gens. Et l'État a intérêt à élargir l'assiette fiscale en fiscalisant l'informel, afin que le contrôle de l'informel lui apporte les revenus dont il a tant besoin.
Et c'est ainsi que nous terminons le panorama économique de cette semaine. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site www.radiookapi.net. Merci à vous, bienvenue Marie Bakoumania, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation.
Avec plaisir.
Le plaisir est pour nous de vous retrouver le week-end de la semaine prochaine. En attendant, très bonne suite de programmes sur votre radio. Thank you.